Aujourd'hui, Anne va nous commenter Genèse 12, les versets 1 à 7, la vocation d'Abraham.
Dieu notre Père, tu te fais parole en ton Fils Jésus-Christ. Tu es parole vivante par l'Esprit qui souffle à travers les textes. Que le souffle de ta parole soit pour nous nourriture, qu'il nous donne force et amour. Afin que nous puissions voir notre monde transfiguré par ta gloire, cette lumière de ta présence. Que nous trouvons dans la Genèse 1 à 4a.
Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les serviteurs et les troupeaux qu'ils entretenaient à Haran, et ils partirent pour le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Le Seigneur apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je te donnerai ce pays. » Là, Abraham éleva un autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Amen.
Alors, on ne sait pas si Abraham est un personnage mythique ou s'il a une consistance historique du fait que les archéologues et les décrypteurs des écritures anciennes n'ont pas trace de son nom ni de son périple. Qu'importe. Le récit de Genèse 12 met en scène celui qu'on a appelé le père des croyants et c'est à ce titre qu'il peut nous intéresser. Dès les premiers livres bibliques, dans la Bible, je rappelle, la Genèse n'est pas le plus ancien, mais c'est le premier qui figure dans cette bibliothèque. Le premier livre écrit a été l'Exode. Donc, dès les premiers livres bibliques, Dieu se présente comme celui qui cherche le contact avec les humains. Il ne se laisse pas voir, mais il ne reste pas muet. Il interpelle tel ou tel qui ne s'y attend pas. Et il entre en conversation en distribuant des consignes ou des messages. C'est le cas d'Abraham, plus tard de Moïse au désert avec le peuple libéré. Dieu montre la route à suivre dans un petit nuage le jour et dans une nuée lumineuse la nuit. C'est ce qu'on appelle une théophanie. Le Dieu de la Bible est donc discret. Le prophète Élie le guette dans l'orage, dans de grands bruits, en vain. Il finit par découvrir la présence de Dieu dans un fin silence. Le fin silence ressemble sans doute à ce que l'on éprouve dans un bonheur partagé qui n'a pas besoin de mots. Ce qui frappe dans l'histoire d'Abraham, l'histoire de son départ, ce qu'on appelle la vocation, c'est-à-dire l'interpellation de Dieu à cet homme pour le mettre en route. Donc dans cette histoire, ce qui frappe, c'est que l'appel à partir pour une terre tout à fait inconnue d'Abraham est assorti d'une promesse bénédiction. Le mot bénir, ou le mot bénédiction, reviennent en tout et pour tout dans ce petit extrait 5 fois. Et cette bénédiction, cette promesse de bonheur, de prospérité, ne vaut pas seulement pour Abraham et sa descendance, c'est-à-dire un petit clan nomade du Moyen-Orient, mais elle s'étend à toutes les familles de la terre. Ça veut dire que dès Genèse 12, on a déjà un aperçu du projet de Dieu pour l'humanité. La promesse de bonheur vaut pour tous. Concernant le petit fragment de malédiction qui suit la promesse de bonheur, celui qui te maudira ou qui te bafouera, je le maudirai. Je voulais juste dire qu'il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est juste une tournure sémitique. Le revers négatif est destiné à renforcer l'affirmation. Je te bénis, je vous bénis, je bénis ta descendance, je bénis toutes les familles de la terre. La promesse, surtout pour des nomades, d'avoir une terre à soi. Vous imaginez ce que ça représente quand on est nomade. Le don de la terre et par suite la prospérité matérielle. Le don d'un héritier mâle qui va garder le nom et d'une descendance de nombreux enfants sont pour les croyants de l'époque des patriarches les signes visibles de l'amitié de Dieu. Mais, de siècle en siècle, la révélation va s'affiner, avec les prophètes notamment, ou avec l'histoire de Job, quelques contes comme ça, qui vont faire avancer la pensée théologique, c'est-à-dire les représentations que les croyants ont de Dieu, pour aboutir au message de Jésus. Et là intervient une révolution théologique fondamentale. Jésus va montrer dans tout son ministère que ni la pauvreté, ni la stérilité, ni les maladies, ni les handicaps de naissance, ni les accidents, genre effondrement de la tour de Siloé, ne sont la conséquence du péché ou d'un abandon de Dieu. Mais finalement, cette révolution théologique majeure qui dit « la richesse n'est pas une bénédiction de Dieu, la pauvreté n'est pas une malédiction de Dieu, c'est beaucoup plus le fait des hommes, de leur organisation sociale, etc. » Cette révolution théologique majeure, elle n'est pas si connue que ça, elle n'est pas enregistrée dans l'humanité. Il y a des tas de gens qui considèrent que, au XXIe siècle, il y a des gens qui sont absolument persuadés que leur fortune, c'est une récompense du ciel, ou d'eux-mêmes. Malheureusement, le credo cynique d'un certain nombre de puissants est le discours actuel qu'on peut entendre. Que répondre à cela? Que répondre à cela? Si ce n'est en dénonçant l'accaparement des richesses et en pratiquant le partage de nos biens et de nos personnes. Ce que nous avons, ce que nous sommes. Essayons maintenant de voir ce que pourrait signifier la vocation d'Abraham pour nous-mêmes. Cet appel à partir. Cet appel à partir, nous l'entendons plus ou moins clairement dans nos vies. Cet appel-là suppose le renoncement au passé, ne pas s'accrocher, ne pas s'agripper au passé. Forcément, le passé, on le connaît, donc même s'il n'a pas été très heureux, c'est confortable d'y revenir ou de le ruminer. Même si c'est inconfortable, on a tendance à s'y accrocher. Eh bien, l'appel à partir suppose le renoncement au passé et souvent, des ruptures. Ruptures avec des relations tissées au fil des ans. Et là, je vous invite à évoquer en secret les ruptures que vous avez pu subir dans votre vie, ou librement accepté. Tous nous en avons. Personne n'échappe à ce genre d'épreuve, qui débute avec la naissance elle-même. La naissance comme séparation physique de l'enfant avec sa mère, c'est la première rupture, extrêmement violente. Et toutes les ruptures ultérieures vont rappeler cette blessure initiale. Mais s'il n'y a pas cette rupture initiale, comment le petit bébé va pouvoir accéder pleinement à sa vie d'humain? Cette rupture est fondamentale, elle est nécessaire. C'est pour ça que les ruptures ne sont pas forcément à vivre comme des échecs. Abraham entreprend son périple à l'âge de 75 ans et reçoit un nouveau nom à 86 ans. Dieu le renomme. Il passe de Abraham à Abraham. Quoi qu'il en soit, pour nous, adolescents ou adultes, changer d'école, apprendre un nouveau métier, déménager d'une région à l'autre, quitter une ville où on a tous ses amis, ses racines, bon, c'est pas rien. Vivre une séparation par un deuil, ou après plusieurs années de vie commune, subir le rejet de sa famille, tout ça, ce sont les ruptures de nos vies. Il y a pire quand même, un changement d'établissement. Il y a ceux qui arrivent à un moment donné où ils s'engagent à fond pour une cause. Et là, je pensais à un monsieur pour qui j'ai écrit le mois dernier, un avocat du Soudan qui défend les droits humains, hein, qui s'est mouillé vraiment pour les autres et qui, à son tour, se trouve non seulement enfermé, mais condamné à mort. Un innocent condamné à mort, vraiment quelqu'un qui paye de sa personne. Hein. C'est quand même une figure christique. Donc, je me dis, mais cet homme qui n'est sans doute pas chrétien, sans doute musulman, il paye de sa vie le fait de défendre les autres. C'est quelque chose. Et puis alors, il y a l'affrontement, bon, je parle sans papier, là, puisque j'ai pas la suite. L'affrontement à la maladie, c'est quand même ce qui est à la vieillesse. C'est ce qui nous concerne le plus couramment, tous les uns les autres, à tout âge. Voilà. Eh bien, alors là, l'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille. Et c'est là que revient l'expression « se tourner vers Dieu ». Eh bien, quand on est à ce tournant de notre vie, où vraiment... il y a quelque chose d'essentiel qui se joue. On est devant un choix. Soit on vit cette épreuve seul avec soi-même, et si on a un entourage affectueux, ça aide. Mais on est tout de même invité à se tourner vers notre Créateur. C'est lui l'alpha et l'oméga de nos vies. Donc, se tourner vers lui, c'est... comment dire ? C'est une dynamique intérieure, c'est une nouvelle perspective qui nous est offerte. Voilà ce que je trouve d'être très positif dans le départ d'Abraham. Tout âgé qu'il était, il a accepté de se remettre en question complètement. Voilà. Et donc c'est un encouragement pour nos vies. Un encouragement pour nos vies, quels que soient les événements que nous ayons à vivre. Le Seigneur est là, à nos côtés.